VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Le président sénégalais Macky Sall a souligné ce lundi sa volonté de faire en sorte que l'Afrique ne soit pas un ventre mou dans la lutte contre le terrorisme. Et ce, à l'issue d'un entretien à Paris avec son homologue français Emmanuel Macron. Ce dernier a pour sa part salué le rôle majeur que le Sénégal joue et a joué dans la lutte contre le terrorisme au Sahel lors d'une déclaration conjointe des deux leaders à la presse à l'Élysée. Le Sénégal, déjà fortement engagé, deviendra dans les prochaines semaines le premier contributeur à la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, a précisé le chef de l'État français. Au Mali même, le texte qui doit être soumis à référendum le 9 juillet pour amender la Constitution est sujet à controverse. Plusieurs organisations de la société civile ainsi que des partis politiques et des associations de jeunes et de femmes se sont mobilisés pour demander ensemble le retrait du projet, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'opposition trouve qu'en plus de la violation de certains articles, la situation sécuritaire du pays ne permet pas l'organisation des référendums. Le projet de constitution prévoit le Sénat et l'Assemblée nationale. Les deux combinés donnent le Congrès, qui doit s'attirer sur les questions référendaires à la place des Maliens. Les organisations de la société civile, certains partis politiques, des regroupements de jeunes et femmes viennent de mettre en place une plateforme dénommée Non c'est fini ou Enter à Bana, une plateforme qui demande le retrait du projet constitutionnel et l'annulation du référendum. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, plus d'un an après l'attaque terroriste meurtrière qui l'avait frappé le 15 janvier 2016, le café-restaurant Cappuccino de Ouagadougou renaît de ses cendres, pour reprendre l'expression de notre correspondant sur place. Plusieurs membres du gouvernement burkinabé sont allés soutenir le promoteur qui avait perdu sa famille dans cet attentat djihadiste en plein cœur de la capitale. Reportage d'Issa Napon, notre correspondant à Ouagadougou.
Sur l'avenue commune Krumah, balayée par une fine pluie cette nuit, c'est la résurrection du café restaurant Cappuccino qui se jouait un an après l'attaque terroriste qui y avait fait une trentaine de morts. Une réouverture qui traduit la volonté du promoteur, qui y avait aussi perdu sa famille tombée sous les balles meurtrières des terroristes, de garder la tête haute. Gaëtan Santomena.
Ce qui est important pour moi, c'est de respecter la mémoire de ceux qui sont partis. C'est de ne pas accepter ni acceptable. C'est d'essayer de laisser un monde meilleur à nos enfants. Ce qui s'est passé au Burkina, c'est passé à Paris, c'est passé à Londres, c'est passé à Bruxelles. Sécurité à 100%. On fait de notre mieux. On essaie de s'entourer de toutes les précautions possibles et inimaginables. Et j'espère que ça ne se reproduira plus jamais nulle part.
Voir ce lieu qui symbolise la douleur de Ouagalais, touché de près ou de loin par le drame, renaître de ses cendres traduit le courage d'un homme, lâche le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement burkinabé, Rémi Dandjeno.
Il y a dans cette réouverture une volonté nette d'un homme de considérer que ce qui s'est passé est certes important et douloureux, mais que vivre et avancer est essentiel. Donc le gouvernement dans son entièreté voudrait accompagner M. Gaëtan et dire qu'il y a eu certains mal événements très douloureux qui sont produits ici, mais que la réouverture du Cappuccino est l'expression d'une volonté d'un homme de redonner la vie et surtout la volonté d'un pays qui a envie de continuer à avancer. Donc dans ces éléments douloureux, il a su tourner la page, il a su se rendre plus fort.
Des clients attablés pour la circonstance n'ont pas voulu manquer cette première. Une présence qui vise à transmettre un message soutiennent différents invités.
Ce qui m'a le plus motivé, c'est le fait de savoir qu'après ce drame-là, le propriétaire des lieux a tenu à rouvrir. Ça m'a tellement marqué parce que je me demande d'où il puise ce courage-là. Et je suis émue de voir que ça va, il a le moral haut. Il a rénové les lieux, le personnel est toujours dynamique comme avant. C'est un homme très courageux et je suis fière de ça, vraiment fière. Il faut qu'on l'encourage et moi je suis prête à l'encourager et j'invite tous les citoyens burkinabés aussi à le faire. On va vivre en mettant Dieu au cœur de tout et puis se dire que tout ira bien.
On a le droit de montrer que la vie ne s'arrête pas là. Il faut qu'on puisse aller de l'avant. Avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré, qu'il accepte de réinvestir, de montrer qu'il faut qu'il arrive à réaliser ses rêves toujours. C'était un devoir vraiment pour nous de venir vraiment le soutenir et montrer qu'on est avec lui.
Je suis très content d'être ici et de voir M. Gaetano qui a le courage, la force et l'enthousiasme pour repartir après les drames qu'il a subis.
Tout un symbole donc que la réouverture du café restaurant Cap Cappuccino, comme pour dire à tous ceux qui sèment terreur de désolation, non, vous ne changerez pas nos habitudes, non, vous ne nous empêcherez pas de vivre. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Cour pénale internationale de La Haye, près de 2 ans après l'ouverture de son procès, l'ancien chef de guerre de la RDC, Bosco Ntaganda, devrait prendre la parole mercredi devant la CPI, la Cour pénale internationale, où il sera le premier accusé à s'exprimer pour sa défense. Jusqu'à présent, Ntaganda s'était seulement expliqué en plaidant non coupable et en jurant n'être qu'un soldat, pas un criminel. Rappelons que Bosco Ntaganda, 43 ans, est accusé de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité, dont meurtre, pillage, attaque contre des civils, viol et esclavage sexuel commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Et en RDC même, nouvelle attaque contre une prison, cette fois-ci dans la ville de Beni, dans l'est du pays, où plus de 900 détenus se sont évadés hier en début de soirée à la faveur de cet assaut à l'arme lourde. 11 personnes ont perdu la vie, 8 gardiens et 3 détenus. Les autorités locales parlent d'un groupe rebelle Mai Mai. Un couvre-feu a été décrété pour tenter de retrouver les évadés de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Notre correspondant Charlie Kasereka fait le point.
C'est vers 15h local ce dimanche qu'un groupe d'hommes armés a lancé une attaque sur cette maison carcérale de la ville de Beni. Sur les 966 personnes civiles et militaires qui étaient en détention dans cette maison carcérale de Kangwayi, seulement une trentaine est restée et seraient tous des militaires. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, a vite convoqué une réunion de crise dans la soirée et des mesures sécuritaires viennent d'être prises.
Il y a au total 11 morts, dont 8 gardiens de prison qui ont été abattus par les assaillants qui ont attaqué la prison à l'arme lourde. Mais la grande mesure que nous venons d'adopter, c'est de pouvoir annoncer le couvre-feu à partir de ce dimanche à 18h30 sur toute l'étendue de Beni également, sur la ville de Butembo.
La prison centrale de Beni a déjà subi d'autres attaques similaires dans le passé, comme d'ailleurs plusieurs autres prisons de la RDC dans différentes grandes villes ces derniers temps, dont la plus spectaculaire a été celle du 17 mai dernier à la prison centrale de Makala, où plus de 4000 personnes se sont évadées. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Tchad, des casques bleus tchadiens de la MINUSMA, la force onusienne au Mali, rentrés de mission chez eux, ne sont pas contents. Ils ont lancé une opération dénommée Brûle-Béret ONU la semaine dernière devant leur caserne à N'Djamena pour revendiquer 2 ans de salaire et de primes. Le capitaine Altora Maxime, l'un de leurs délégués, explique leur mouvement d'humeur.
C'est une manière de nous faire entendre, c'est aussi une manière de dénoncer le silence de l'ONU, parce que la présence de ces effets nous rappelle les mauvais souvenirs de cette mission. Le premier contingent a travaillé de 2014 à 2015, le deuxième contingent a travaillé de 2015 à 2016, actuellement c'est le troisième contingent qui est sur le terrain. Le militaire tchadien est discipliné, contrairement aux autres qui revendiquent leurs droits avec Kalachnikov et roquettes en main. Raison pour laquelle nous avons opté pour cette opération Brûle-Béret ONU pour informer l'opinion nationale et internationale du désarroi dans lequel nous nous trouvons. C'est incompréhensible que les casques bleus d'autres contingents soient bien traités et que le casque bleu tchadien qui a vraiment hissé le drapeau du pays et qui a imprimé une bonne marque du pays à l'extérieur soit traité de cette manière. On ne sait pas si c'est l'aménagement qui va nous payer ou bien l'argent est déjà versé et que ce sont nos autorités qui refusent de nous payer.
Le capitaine Altora Maxime à N'Djamena au Tchad. Conférence du G20 Afrique ce lundi et mardi à Berlin, à moins d'un mois du sommet du G20 à Hambourg. L'Allemagne compte profiter de sa présidence du groupe pour offrir aux pays africains une plateforme pour entrer en contact avec des investisseurs et renforcer l'engagement du secteur privé en Afrique. C'est ce qu'a souligné le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble dans un communiqué. Plusieurs leaders africains sont attendus à ce G20 Afrique à Berlin, notamment les dirigeants du Niger, du Mali, ainsi que le président de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, qui seront reçus par la chancelière allemande Angela Merkel à l'ouverture de la conférence ce lundi. Dans une Allemagne qui a accueilli plus d'un million de demandeurs d'asile ces dernières années, Angela Merkel veut s'attaquer aux causes de la migration en offrant des perspectives de travail et de développement aux populations des pays de départ. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.